Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'écho des entreprises sur votre radio Eau de Radio, fréquence 91.3. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020, c'est le dernier numéro de votre émission consacrée à l'économie territoriale dans tous ses états. Alors que 2020 s'achève, chers amis, d'aucuns rêvent que d'une année à l'autre, nous passions aussi d'un monde à l'autre, d'un mode de consommation débridé à un autre qui serait plus responsable, plus éthique et plus solidaire aussi. Que les paradigmes qui conditionnent nos sociétés basculent irréversiblement. Nous avons tous entendu parler, ici même, dans la rue, dans les hémicycles de nos instances dirigeantes, de développement durable, d'économie verte, solidaire, circulaire. L'heure est désormais à la réflexion pour savoir quelle sera l'économie de demain, en accord avec la préservation de l'environnement et les changements climatiques. La tâche est ambitieuse, le défi colossal. Nous allons parler ce soir d'économie bleue ou de croissance bleue, car il y a urgence.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer.
Mais j'ai quand même conscience qu'on vit sur un seuil étroit de tolérance, que la technologie, la science, tout ça nous a un peu, quand même, a troublé un peu notre interprétation de la réalité. C'est-à-dire qu'on est un peu aveuglé, on ne se rend pas compte qu'en fait la vie tient du miracle, qu'on fait partie de ce miracle, mais qu'il en faudrait peu pour le compromettre.
D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras.
La nature a trouvé la solution à ce problème. Parce que pour la nature, les déchets des uns sont les achats des autres, les opportunités des autres. Eh bien, il y a un grand entrepreneur belge qui s'appelle Gunther Pauli qui a dit très simplement « La nature est la meilleure école de commerce au monde. C'est la meilleure business school. La nature a un MBA, un Master of Brilliant Adaptation, parce qu'elle s'est très bien adaptée et que les chefs d'entreprise auraient des cours magnifiques à prendre de la nature. »
Que tu respires, c'est demain que tout empire.
Il a dit, mais vous êtes un fou! Adaptez-vous! Quand même! J'ai dit, monsieur Gilding, voir ma mal, c'est mal. Polluer moins, c'est polluer. Voler moins, c'est voler. Tuer moins, c'est tuer. On ne peut pas. L'éthique doit être au cœur de nos entreprises, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas une clarté de votre éthique, qu'est-ce que vous feriez dans le monde? Et alors, cette éthique, nous souffrons tout le temps. On vient de recevoir le grand rapport sur les pommes. Vous savez que dans nos pommes, nous n'avons que 5% des nutriments qu'on avait dans les pommes de la vallée piémontaise. 5%, imaginez-vous. Mais nous, commerçants, on continue à vendre par kilo et pas par nutriments. Et on dit que tout est plus cher. Pourquoi? Parce qu'on vend par kilo, mais on vend rien. On vend l'eau et l'air.
Une constante de temps qu'il faut garder en mémoire, parce que c'est absolument crucial pour le débat sur le changement climatique. Si demain matin on arrête les émissions dans le monde, eh bien le surplus de CO2 que nous avons créé, il n'y en a que 60% qui sera parti dans un siècle. Il en restera encore 20% dans 1000 ans et 10% dans 10 000 ans. Donc vous avez un processus fondamentalement irréversible en ce qui concerne le changement climatique. C'est comme le vieillissement, c'est fondamentalement irréversible.
Il faut que tu respires.
Amis auditeurs, vous avez sans doute reconnu les voix de Nicolas Hulot, Idrissa Berkane, du professeur Jean Covici et bien sûr celle de Gunther Pauli, l'entrepreneur belge iconoclaste et disruptif à l'origine du concept même d'économie bleue que nous allons bien sûr tenter d'expliciter tout au long de l'émission. À l'instar de ces personnalités, nos invités de ce soir se sont appropriés les mots du poète René Char. Ils pensent qu'il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve ou on l'accomplit. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. On va discuter de tout ça avec vous. Nous avons le plaisir de recevoir Serge Gomez da Silva, fondateur d'Illogic. Est-ce que j'ai bien prononcé ?
Tout à fait.
Service de consultant spécialisé dans le conseil, l'animation et la communication de projets, événements et réseaux de l'économie bleue en Europe et au-delà. Avec nous dans ce studio, j'ai repris telle quelle votre présentation sur votre site pour ne pas me tromper.
Parfait.
Parce que c'est vaste et très riche. Nous aurons également le loisir d'entendre par téléphone Romain Bouillet, président fondateur de l'entreprise Trizy, qui accompagne les collectivités et les entreprises dans la gestion et la réduction de leurs déchets en favorisant économie circulaire locale, réemploi et lien social. Ensuite, toujours par téléphone, et ce en raison des conditions sanitaires qui nous empêchent d'être tous ensemble dans ce studio, nous allons entendre Marielle Philippe de la société Fémère, qui nous racontera comment elle utilise les déchets des activités marines pour faire du cuir en éco-conception, au tannage 100% végétal. Et ça, ça va vous passionner, Hayat.
Tout à fait.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir, pardon. À mes côtés, oui. Un peu, comme tous les lundis, pour m'accompagner tout au long de cette émission. Hayat, je rappelle que vous êtes également chef d'une entreprise de création de mode féminine, Rokaya Mina Création et Styliste, et je crois que vous avez pas mal de questions pour nous inviter. On vous entendra tout à l'heure, mais sans plus tarder, je me tourne vers vous, Serge Gomez da Silva. Vous êtes donc le fondateur d'Illogic. Qu'est-ce que vous faites ? Vous accompagnez les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de croissance bleue. On vient d'entendre Gunther Paoli. D'après lui, donc, le mode de fonctionnement de la nature, il faut s'inspirer du mode de fonctionnement de la nature qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce concept vous inspire ?
Tout à fait. Merci de me donner la parole. Donc, l'économie bleue, comme la présente Gunther Pauli, est une des définitions, on dirait, de l'économie bleue. En ce qui me concerne, l'économie bleue est plus géographique. Donc, c'est une économie maritime, économie littorale, mais qui s'inscrit un peu dans ce que Gunther nous raconte. Dans ce que lui dit, en fait, il y a deux concepts qui portent d'autres noms aussi, qui sont l'économie circulaire et la bio-inspiration, en fait, qui sont des leviers aussi de développement et d'innovation qu'on connaît bien ici en Nouvelle-Aquitaine, et qui, comme on l'entendra tout à l'heure avec Marielle notamment, vise à montrer qu'on peut avoir une économie vertueuse en maximisant chaque cycle, chaque étape d'une production, en ayant recours à plus de localité et à une meilleure valorisation du cycle et du cycle court. Donc voilà, moi personnellement, je suis beaucoup plus maritime, donc comme je disais, l'économie bleue de par la couleur de la mer. Et dans mon activité, j'accompagne non seulement des entreprises, des indépendants qui voudraient mieux comprendre et comment se développer, trouver des financements au niveau européen, mais aussi des institutions. Je travaille pour des institutions européennes, que ce soit la Commission, je travaille pour des institutions plutôt régionales, région Bretagne, je travaille avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec des agences françaises aussi qui elles-mêmes sont consultantes à des plus grands niveaux de développement. Donc c'est un portefeuille assez varié, mais ma constante, c'est vraiment celle-là. C'est l'économie littorale et les sociétés, les communautés qui dépendent en fait de ce milieu. Dans beaucoup de projets que j'accompagne, c'est comment créer un développement local, comme je disais, vertueux, ascendant, donc qui part vraiment d'une analyse des ressources, des compétences, de ce qui est, de ce qu'on peut trouver au niveau local, et de comment mieux le valoriser pour disséminer vraiment les bénéfices de cette activité au plus grand nombre. Ce qui m'occupe beaucoup en France, notamment, on parlait de la région Bretagne, région Nouvelle-Aquitaine, c'est le travail avec des fonds européens qui permettent justement de financer ce développement ascendant, ce développement local. C'est un programme qu'on connaît depuis les années 90 en France, qui s'appelle le programme LEADER, et qui, depuis début des années 2000, s'est converti au maritime, on va dire, et propose ce même modèle de croissance et de financement des projets à travers une meilleure écoute des professionnels, des ostréiculteurs, des pêcheurs, pour vraiment aller au plus près et trouver des projets qui sont les plus pertinents et les plus efficaces pour apporter une plus-value aux communautés locales.
Hayat, je crois que vous avez une question justement sur le financement, parce que je rappelle pour nos auditeurs, c'est vrai qu'il y a un mois se tenait la semaine de l'océan, oui, avec un accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine, justement sur cette thématique-là. Il y a eu, ça s'est fait en visio cette année avec beaucoup de conférences et avec les limites que ça peut comporter. évidemment. Mais je crois que tu avais une question sur le financement, justement.
Oui, justement. Mais, comment des entreprises pour pouvoir changer de cap, puisque c'est un cap quand même dans cette économie, comment trouver ces financements-là? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? Est-ce que l'information est assez bien transmise? Parce que on sait que quand on cherche des financements, il y a toujours un flot d'informations, surtout quand ça touche au niveau européen. Là, c'est encore plus vaste encore. Donc, est-ce qu'ils sont faciles d'accès, par exemple, via la Chambre des métiers ou Chambre de commerce? Ou est-ce qu'il faut aller un peu chercher ou avoir des interlocuteurs assez précis?
Une réponse à la normande, oui, un peu des deux. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est maintenant dans une communication des disponibilités de fonds beaucoup plus efficaces et faciles d'accès qu'il y a 10 ans, on va dire. Donc vous avez cité la Chambre de commerce, il y a aussi des institutions, des agences comme Europe en Nouvelle-Aquitaine qui sont spécialisées pour... qui traduisent tout ce jargon européen qui n'est pas nécessairement très compréhensible et facile d'accès dans vraiment un vocabulaire adapté et d'action pour que justement les entrepreneurs, les entreprises puissent s'en saisir, qu'elles arrivent à comprendre quand déposer un dossier de financement, comment le faire et avoir un accompagnement. On parlait de la croissance, de l'économie verte. Il y a aussi ce qu'on appelle les clusters. On va partir dans du jargon anglais, un cluster comme Aquitaine Croissance Verte, qui est très actif ici sur Bordeaux et notamment avec l'espace Darwin et la région Nouvelle-Aquitaine, va justement regrouper et fédérer différents types d'acteurs, entrepreneurs, personnes travaillant dans la région pour organiser des événements, alors qu'ils soient en physique ou en virtuel, mais qui permettent justement de mieux comprendre comment se positionner, comment constituer un projet, vers quelle source de financement se diriger. Donc c'est un peu des deux, parce que chaque entrepreneur doit lui-même faire l'effort de se voir dans un développement peut-être plus large que dans son propre petit... sa petite zone de confort, et puis voilà, s'il veut changer de paradigme, on disait là, voilà, il faut s'accompagner, il faut vraiment trouver les bons accompagnements, ils existent, et notamment à travers ces exemples-là, la région, pour moi, c'est le premier guichet à aller voir, la CCI, et puis voilà, des organismes comme Aquitaine Croissance Verte, qui maintenant reprend aussi un peu de croissance bleue, puisque on parlait de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui a lancé en 2018 son premier cluster d'activités lié à l'économie bleu maritime, et qui regroupe 11 filières d'activités. On parle du nautisme, de la pêche, l'ostriculture, la recherche liée à l'océan, et qui essaye de développer des outils d'appui et puis d'accompagnement des entreprises à ce niveau-là. Il y a encore du travail, mais ça commence, oui. Ouais. Oui, oui.
Oui, ça commence, mais justement, dans votre activité, c'est aussi celle de conseil. Donc, vous orientez, évidemment, donc, les personnes qui viennent vous voir. Concrètement, si une entreprise a envie de se lancer dans cette démarche, elle peut aller chez Illogic et avoir donc, des conseils. Et aussi, vous faites aussi de la communication. Oui. Dites-nous un peu plus.
Quiconque viendrait nous voir... me voir, c'est une entreprise individuelle, je parle au pluriel, mais je suis tout seul pour l'instant. mais on a eu l'occasion de travailler, par exemple, parfois avec des entrepreneurs plutôt sur le Pays Basque, Notox, qui faisait des planches de surf, et c'était comment s'orienter vers un programme transfrontalier de coopération avec le Pays Basque pour trouver des financements liés à la coopération. En les aidant à développer une trame, une manière de répondre au projet. Parfois, c'est simplement un petit coup de pouce sur la manière de se présenter, trouver les bons mots-clés, trouver les bonnes références. Ce qu'il faut savoir aussi, maintenant que je suis entrepreneur, on voit souvent qu'on a, on prend pas le temps de parler de ce qu'on fait, On fait ce qu'on fait. Voilà. Et on va pas... passer du temps à dire comment mieux présenter, se mettre sous un beau jour, alors que c'est une partie essentielle du travail, que ce soit dans la vente d'un produit, que ce soit dans l'identification de nouveaux financements, il faut parler de soi. Une entreprise qui vient de me voir, c'est plutôt ça que je vais essayer de fournir comme apport. Avec d'autres clients plus larges, comme je disais, les institutions ou quoi que ce soit, là je vais plutôt m'insérer dans leur manière de travailler et changer peut-être certains éléments de langage, une manière de communiquer qui va les rendre un peu plus intelligibles et compréhensibles pour une audience un peu plus large. J'ai souvent tendance à résumer ce que je fais en disant que l'objectif, c'est pas que les gens comprennent ce que je fais moi, mais c'est plutôt mon but, c'est de faire comprendre ce que les autres font. J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ce que je fais, en fait, mais je préfère expliquer ce que les autres font.
Mais on voit une espèce de facilitateur, peut-être.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Voilà, qui permet d'aller franchir des passerelles. J'en reviens juste un instant à ce concept d'économie bleue, de biomimétisme, ce dont on a parlé, parce que ça va au-delà de la croissance verte, de l'économie circulaire, qui peut avoir ses limites, parce que la croissance verte, aussi pleine de bonne volonté soit-elle, elle continue souvent à subvenir aux besoins des populations en prenant des produits industriels. Avec la croissance bleue, on va dans quelque chose qui dit, comme le disait Idrissa Berkane dans le son qu'on a écouté, c'est maintenant la connaissance qu'on doit... Une croissance basée sur la connaissance pourrait fonctionner. Donc finalement, ce que vous véhiculez, c'est peut-être aussi ça,
c'est
la connaissance.
Voilà, c'est la nouvelle phase. En fait, la nouvelle révolution verte devrait être bleue. La révolution verte, c'est aussi ce qui a engendré Printemps silencieux de Walton, c'est-à-dire la première... constatation que ces produits magiques qui permettaient de tout faire pousser beaucoup plus rapidement, ils avaient des effets collatéraux, malheureusement. Donc, dans ce qu'on va appeler ici, cette définition de la croissance bleue, vous avez parlé de connaissance, il y a ça, donc il y a ce recul qu'on a maintenant sur l'effet de cette confiance aveugle en la science, qui, une fois qu'elle est dévoyée au profit d'une croissance sans limite, on n'est plus du tout dans l'objectif de départ. Cette nouvelle économie, moi je préfère toujours parler, subdiviser ça en ces différentes économies, économie circulaire, biomimétisme, ça va être vraiment la compréhension de l'effet sur l'environnement, la bonne connaissance des limites, les planetary boundaries, donc les limites planétaires, on va dire, et comment continuer à trouver une manière de rester humain, et puis d'avoir notre manière d'être, d'avoir nos sociétés, tout en conservant une limite d'activité soutenable. C'est vraiment le mot, plutôt soutenable que durable.
Donc on peut parler plus de prise de conscience plutôt que de connaissance. La connaissance, on peut, parce que Idrissa Berkane parlait dans son livre Libérer votre cerveau, il parlait de l'ère industrielle, et qu'au niveau scolaire, on y est encore dans cette ère industrielle. Donc on peut parler pour les générations futures de connaissance, justement, puisque c'est de là où on devrait commencer à changer. Déjà, c'est au niveau de l'apprentissage. Essayer de donner à l'enfant ou même à l'adulte maintenant une opinion pour qu'il puisse penser par lui-même et donc avoir une prise de conscience. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit prendre conscience, nous, justement, des dégâts que l'on fait. Et vous parliez tout à l'heure d'économie verte, justement, et de circulaire aussi, et de biomimétisme. Il y a quand même une différence, si j'ai bien compris, au niveau du concept de l'économie bleue. C'est que l'économie verte, il y a un certain, quand même, porte-monnaie à avoir, parce que le prix est un peu plus cher par rapport à la façon dont c'est fait, etc., pour acheter des produits. C'est un peu plus cher, par exemple, que d'autres produits, parce que c'est fait autrement, etc., etc. L'économie bleue puise sur les ressources naturelles et donc, à terme, pourrait peut-être, rendre des choses peut-être au prix juste. C'est ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu, non ?
Oui.
C'est plus compliqué que ça.
Oui, je dirais que si on va regarder des produits faits au niveau local, qui veulent puiser vraiment dans cette revalorisation des ressources, ce sera toujours l'effort et puis l'effort qui est consenti dans la fabrication de ce produit. On va pas créer une économie sur un modèle de machine à mouvement infini, c'est-à-dire sur un mouvement perpétuel. Il y aura toujours un besoin de rétribuer ou bien de vraiment rétribuer à sa juste valeur un produit d'une certaine qualité. On parle du bio, on va parler des éléments qui nécessitent, qui utilisent moins d'intrants et plus de travail. Fondamentalement, ce travail-là va devoir être rétribué, donc d'où un prix différent. Tout est dans le dosage, tout est dans le besoin et tout est dans l'approvisionnement. Encore une fois, toute une question de circuit court, un maximum, et pour pouvoir se rediriger vers des choses produites au plus près.
Et en tout cas, surtout de générer des plus-values et pas des déchets. C'est quand même principe, en fait. Et surtout, et là, on va bientôt appeler un deuxième invité, après une petite pause, il y avait quand même cette idée que l'économie bleue, elle est censée être profitable à tout le monde, y compris à l'environnement, et elle ne peut se fonder, comme tu le disais, Ayad, que si on change radicalement de modèles sociaux, évidemment, pour le voir, et qu'il y ait aussi une volonté politique, publique, de l'opinion pour mettre à grande échelle. Enfin, c'est ce que...
Mais même dans l'agriculture, si on parle d'agriculture biologique il y a 10 ans ou 15 ans, on ne parle plus de la même agriculture biologique actuellement. Maintenant, on est en train de beaucoup mieux comprendre, par exemple, l'agroforesterie, ce mode de production. Pour revenir à ce genre d'évolution-là, des évolutions simples basées sur la connaissance, en fait, sur le retour à un certain sens ou bon sens de la manière de produire les choses. Et surtout, ne plus avoir cette confiance aveugle en une uniformisation, une standardisation des produits. Et on parle de saisonnalité, on parle de différentes souches et de variétés un peu oubliées. Il faut revenir vers une éducation qui permette de comprendre qu'on ne va pas avoir des produits standardisés à un prix faible, sans impact.
Avec une volonté d'offrir ce qu'il y a de mieux pour la santé et pour les hommes, pour les écosystèmes, au prix le plus juste. On va justement... accueillir dans pas très longtemps par téléphone avec nous pour illustrer ses propos. Il s'appelle Romain Bouillet. Il a fondé, c'est le président fondateur de l'association, de l'entreprise, pardon, Trizy, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il reconditionne des déchets. Mais avant, on va écouter le temps de l'appeler Zebda et Caramouche Hexagone.
Insoumis, partout la réponse est la même, la terre n'est qu'un tatami. Car d'aventure en aventure et de port en aéroport, on est tricard à la figure, même avec les deux passeports.
J'ai cueilli dans des villes austères peu de raisons de mon courroux, et les récits de ma colère m'ont fait dire au bas, mais vers où?
Mais vers où? Mais vers où?
Y a-t-il un continent, une île?
Des mers ou à côté, en banlieue ou au centre-ville, pour te dire on va t'abriter.
Et t'es sous le signe de l'hexagone, c'est pas la poisson méritée. Elles sont aussi d'âmes gasconnes, les lettres du mot liberté.
Moi j'ai laissé passer devant ceux qui me disaient on y go, content d'entendre tous les vents qu'ici les hommes naissent égaux.
Libre et égaux.
Jolie la phrase et belle idée que je m'en suis jamais remis. Ce pays est pas décidé à faire ce qu'il a promis.
Du coup c'est lourd à chaque épaule et c'est pas que tous les matins. De face à peu les pieds reposent, y'a des jours où ça vous atteint.
Y a une chose que j'ai apprise, je le dis à qui veut le croire, c'est l'école et c'est pas l'église qui te fait quitter le trottoir.
Et t'es sous le signe de l'hexagone, c'est pas le pire en vérité. Va donc voir ailleurs si les hommes ont voté pour l'égalité.
91 glacier de sang, tu parles d'un mauvais quart d'heure, d'un discours qui s'embrouillerait, pas du sa plus mauvaise odeur.
Le brouillard.
Puis à l'église c'est Bernard avec le bon docteur, pris dans la tête un coup de pied parce que j'avais pas mes papiers.
J'ai vu dans le vitre en colère des gens pleins d'essence ordinaire chanter motivés en disant
c'est notre chant des partisans.
Mais sur la table d'Argenteuil, y'avait un drôle d'écureuil qui voulait surer pour pas cher, mais calé au karcher.
Mettez sous le signe de l'hexagone, si c'est pas la chance à gâter, ça n'a jamais tué personne.
Thank you.
reste où je suis né, dans la patrie du vieil Hugo, et même si elle est dessinée avec six côtés.
Romain Bouillet, vous êtes en ligne avec nous ?
Elle a fait de moi son égal, moi j'ai fait d'elle une boussole.
Romain Bouillet, bonjour et merci de nous rejoindre dans notre émission L'écho des entreprises. Vous êtes en ligne ?
Oui, bien sûr.
Oui, bonsoir. Vous êtes donc sur Eau de Radio 91.3. Romain Bouillet, vous êtes le président fondateur de Trizy, qui propose donc une solution de traitement des déchets pour les entreprises publiques comme privées. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise, depuis combien de temps elle existe et quel est son champ d'action ?
Oui, bien sûr. Donc Trizy, c'est une solution qu'on commercialise depuis un peu plus d'un an, depuis fin 2019, qui s'adresse majoritairement aux collectivités. On accompagne du coup dans leur communication auprès des habitants, auprès des usagers, dans leur gestion des déchets, à travers donc notre solution qui se prend sous forme d'un chatbot, un petit robot conversationnel, un assistant virtuel qu'on va déployer sur les sites internet des collectivités et leurs applications mobiles et aussi potentiellement leurs réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur les canaux de communication digitaux existants des collectivités et venir connecter notre assistant qui va répondre de manière instantanée et automatique aux questions des habitants sur la gestion de leurs déchets avec différents niveaux d'information. Un premier niveau plus serviciel où là, on va pouvoir lui demander où est-ce qu'est la déchetterie la plus proche, je veux un composteur, mon bac est cassé, comment je fais, etc. Et aussi toute la partie consigne de tri. Donc là, nos algorithmes reconnaissent plus de 1500 déchets. Donc je vais lui dire, salut Trizy, où est-ce que j'ai mon pot de yaourt, mon tube dentifrice, mon ordi, bref, tous les objets ou déchets qu'on peut avoir chez soi. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'information où là, ça va être du contenu que nous, on va créer et mettre à disposition des collectivités. C'est du contenu autour du zéro déchet, notamment plein de conseils, de tutos, d'astuces zéro déchet ou anti-gaspi. On va par exemple produire des vidéos pour faire sa propre lessive, pour faire ses éponges maison, etc. Donc voilà, ouais, c'est du contenu disponible et que la collectivité peut réutiliser voilà, au fil de la conversation hein, grâce à son chatbot. Et enfin, et le dernier niveau, et on ne peut pas parler de réduction des déchets sans parler d'économie circulaire, et vous en parliez depuis tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est de travailler vraiment sur le territoire avec les collectivités et avec les porteurs de projets pour déjà les identifier, parce que souvent, la collectivité elle-même ne connaît pas forcément toutes les solutions locales qui existent en termes de réemploi. Donc on va déjà essayer de les identifier, ensuite les mettre en avant à travers Trizy pour que le bot puisse vraiment pousser ces solutions et inviter un habitant à aller déposer voilà, un meuble dans une ressourcerie plutôt que d'aller l'emmener à la déchetterie ou déposer une planche de skate dans une start-up qui fabrique des montres en bois à partir des planches de skate usagées plutôt qu'encore une fois le déposer à la déchetterie. On n'a pas toujours des filières de valorisation, etc. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un triple impact positif sur les territoires avec la réduction des déchets, l'amélioration du tri, avec la valorisation des solutions locales de réemploi et avec la préservation du lien social aussi dans les territoires, même si en ce moment, c'est pas le sujet trop à la mode hein, de préserver le lien social. Mais en tout cas, c'est important aussi pour nous d'essayer de reconnecter les gens, notamment grâce à toutes ces solutions, les tiers-lieux, les ressourceries, etc., qui sont aussi des lieux de rencontre, d'échange et de contact entre habitants.
Oui, parce qu'on connaît toutes les réalisations économiques qui sont à petite échelle, du type AMAP, mais en fait, tout le monde peut agir. C'est ça le message.
Exactement. C'est exactement ça, montrer qu'il existe plein de solutions, souvent même à côté de chez soi, qu'on ne connaît même pas, et qui ne coûtent pas forcément plus cher, qui ne prennent pas plus de temps, qui ne sont pas plus compliquées que ce que je pourrais faire. Et pourtant, ça a beaucoup plus de sens et d'impact positif localement et même à plus grande échelle.
Puisqu'on a tous recours, bon gré mal gré, à des produits issus de l'industrie qui financent certes de nombreux emplois, mais dont on doit à un moment donné se dessaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Trizy et depuis combien de temps ça existe ?
Alors, ce qui nous a amené à créer Trizy, c'est vraiment un pivot qu'on a opéré dans la start-up que j'ai fondée en 2017 qui s'appelle MrBot. Initialement, c'est une start-up qui conçoit et qui développe des chatbots, mais au format agence, donc comme une agence de site web qui va faire des sites sur mesure pour ses clients. Ben là, c'était la même chose. Donc, on crée plein de chatbots sur mesure pour nos clients. On a travaillé dans le cinéma, on a travaillé dans l'industrie, on a travaillé dans les médias avec plein de projets qui n'ont rien à voir. Et on a travaillé pas mal aussi avec des collectivités pour des chatbots, pour répondre aux questions sur les sites des collectivités, comment je fais pour renouveler mon passeport, je paye le menu de la cantine de mes enfants, etc. Et en 2018, on a échangé avec Bordeaux Métropole qui avait la volonté de créer un chatbot sur la thématique des déchets parce que en fait, c'était déjà la section du site la plus visitée sur le site de Bordeaux Métropole. C'était un sujet qui génère beaucoup de demandes, beaucoup d'appels aussi, de mails, d'appels, etc. Et surtout, c'est un sujet qui est complexe et c'est pas forcément évident de faire passer les bons messages sur ce sujet-là. Donc Bordeaux Métropole a souhaité expérimenter ce nouveau canal de communication et s'est dit peut-être ce côté ludique, conversationnel peut être intéressant pour justement faire passer les messages sur ce sujet qui est pas forcément évident. Donc on a trouvé l'idée super intéressante, donc on les a accompagnés pendant à peu près 6 mois, on a vraiment conçu toutes les solutions, on a réfléchi toutes les questions qui pouvaient être pertinentes d'intégrer dans ce chatbot, toutes les données, on a fait tout ce travail-là, et on a lancé le bot début 2019, et c'était plutôt un succès, on a rapidement beaucoup d'utilisateurs, la métropole était très contente, des retours positifs des utilisateurs, et d'autres collectivités, avec lesquels on travaillait ou pas, qui nous ont signalé que c'était des sujets intéressants et que la solution semblait pertinente et qu'elle aussi avait des difficultés pour faire passer les bons messages concernant la gestion et surtout la réduction des déchets. Et à partir de là, l'idée a un petit peu maturé dans nos têtes et très rapidement, en fait, on a commencé à co-construire ce qui ensuite est devenu Trizy. Donc on a créé une marque, on a créé une plateforme, une solution vraiment dédiée finalement sur ce sujet. Et on l'a co-construit avec Grand Angoulême et avec Grand Poitiers, deux agglos qui avaient un intérêt sur la solution. Et finalement, on a vraiment pivoté vraiment l'activité de la start-up, le modèle économique, le sujet, pour se consacrer quasi exclusivement aujourd'hui sur Trizy.
Une question à Yat ?
Oui, vous parliez de collectivité. Du coup, vous travaillez qu'avec les professionnels ou vous travaillez aussi avec les particuliers ? Parce que vous avez créé une plateforme, si j'ai bien compris, et donc vous avez travaillé avec Bordeaux Métropole. Mais est-ce que du coup, vous faites aussi des ateliers avec des associations, est-ce qu'un particulier peut vous appeler en disant je veux mettre en place ça, et est-ce que vous...
Alors nous on est vraiment sur le digital. Et nous, les solutions, on va la proposer à la collectivité ou avec des entreprises. On commence aussi à travailler avec des entreprises qui veulent réduire leurs déchets. Mais on n'a pas, aujourd'hui en tout cas, d'offres directement accessibles au grand public. Mais du coup, ils peuvent utiliser notre assistance sur le site, par exemple, de Bordeaux Métropole s'ils habitent dans Bordeaux Métropole.
Oui, puis il est très ludique en fait. En effet, quand on va le voir, il y a plein d'informations intéressantes. Et vous-même, si on veut vous trouver, donc on peut aussi l'adresse de votre plateforme, Trizy.
.io, ouais, c'est ça. Trizy.io, il y a toutes les infos dessus. Et après, on peut nous contacter. Il y a tout dessus, ouais.
Oui, je crois que Serge Gomez da Silva de Illogic a une question pour vous.
Oui, une question, une remarque. Enfin, c'est déjà hyper intéressant de voir une IA de lien. Enfin, c'est un chatbot qui va vraiment servir, si j'ai bien compris, à rassembler les différentes initiatives. Alors, moi, je suis basé à Vers, donc on est sur la Cali. Et sur la Cali, on a la chance d'avoir une structure qui s'appelle le SMICVAL. Donc, c'est une plateforme de revalorisation qui est hyper étendue et qui a vraiment développé des initiatives pilotes, notamment en lien avec des tiers-lieux et en lien en revalorisation des matières. Donc là, justement, la question, c'est par exemple, est-ce que Trizy, est-ce que le chatbot est un complément, serait à mon avis un complément idéal pour ce type d'initiative de collectivité, pour clarifier le message, parce que même si on a ce type de d'outils, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et de progrès pour vraiment avoir un tri efficace et une adoption des gestes. Donc voilà, peut-être que... Enfin, vous êtes peut-être déjà en lien avec le SMICVAL, mais ce serait peut-être un partenaire intéressant.
Oui, effectivement, le SMICVAL, c'est un syndicat des déchets qui est assez connu et reconnu, même à travers la France, pour son côté justement assez innovant, notamment avec le SMICVAL Market qui a beaucoup fait parler de lui. Et donc aujourd'hui, on discute un peu avec le SMICVAL, on travaille pas encore avec eux, en revanche, on travaille avec la ville de Libourne, pour le coup, qui est aussi couverte par le SMICVAL. Mais oui, c'est des interlocuteurs pertinents. Là, on a lancé Trizy, par exemple, il y a quelques semaines, dans les Vosges, dans l'Est, auprès du SICOVAD, qui est l'équivalent du SMICVAL, mais dans un autre territoire. Donc on travaille aussi avec des syndicats des déchets qui trouvent pas mal d'intérêt dans la solution, notamment la simplification de l'accès à l'information, ce côté un peu ludique aussi pour faire passer les messages. Et c'est vraiment notre ADN justement de se dire, ok, il y a un message qui a priori, enfin le sujet déjà qu'a priori n'est pas forcément très sexy, c'est un canal de communication pour faire passer les messages est compliqué aussi. Il faut vraiment être motivé pour aller jusqu'à l'information. Donc tout le challenge, c'est de dire, ok, ce sujet, il n'intéresse pas les gens, mais on prend le challenge d'arriver à les intéresser quand même sur ce sujet-là et ensuite leur faire passer nos messages. D'ailleurs, notre logo, c'est un petit panda. Et souvent, on nous demande pourquoi un panda a le logo. Et souvent, d'ailleurs, on nous demande ça sur des salons parce qu'on a les mascottes de panda, des peluches, etc. Et je réponds toujours, bah, si on n'avait pas un panda, est-ce que vous seriez sur notre temps en train de discuter avec nous? Ils disent, bah non, c'est vrai, on a vu les pandas, ça a l'air cool, donc on est venu. Mmh. Et ben, bah, c'est pareil sur le site, on voit le petit panda, je me dis, tiens, c'est quoi, je clique, ça a l'air sympa, je discute. En fait, je me suis même pas rendu compte, mais j'ai appris 2, 3, 4 choses autour des déchets sans même forcément chercher l'information.
C'est une évolution, on est en plein dedans. L'aspect de communication, l'aspect de clarté du message, on n'est plus dans une communication institutionnelle ou scientifique qui veut se mettre en supériorité de connaissances par rapport à ceux qui ne savent pas. Et c'est, je pense, une des démarches et une des moi, c'est des choses qui me passionnent. Alors, encore une fois, un peu plus dans le maritime, mais on communique très différemment maintenant, et c'est ça que je veux porter sur ce que c'est qu'être ostréiculteur, ce que c'est que valoriser des déchets. Il y a moyen de trouver des messages beaucoup plus parlants et plus intéressants et plus sexy, pour utiliser le terme, pour que les gens les adoptent, en fait.
Et justement, pour parler de la clarté du message, je rebondis sur ce que vous dites, ce que vous avez dit tous les deux, Ayat et Serge. Romain Bouillet, cette année 2020, absolument ignoble sous plein d'aspects, nous sommes d'accord, elle a impacté votre activité ou bien justement c'était le moment ou jamais de le faire passer ce fameux message auprès de la population ?
Bah, un peu les deux. Donc effectivement, c'est peut-être encore plus le moment aujourd'hui qu'avant de faire passer ce message. Mais pour autant, ouais, c'était une année qui était un peu compliqué parce qu'on a eu un peu un double effet qui se coule avec forcément le confinement qui est arrivé en mars. Mais en mars, avant le confinement, initialement, il y avait les élections municipales qui étaient prévues. Et on travaille beaucoup avec les collectivités. Du coup, il y avait potentiellement des nouvelles équipes qui allaient se mettre en place. Et le fait que les élections aient été gelées et décalées, bah, ça a gelé aussi en fait tous les projets. Les territoires qui étaient déjà signés, on devait déployer Trizy juste après les élections, quand les nouvelles équipes étaient en place, finalement, ça a été déployé au mois d'octobre. Les territoires qui devaient être signés, on attendait juste les nouvelles équipes, les nouveaux élus qui puissent signer. Ça a aussi été décalé, et là, on est en train de rouvrir les dossiers. Donc, on a pris beaucoup de retard, beaucoup de décalage, en fait, sur tous les projets. Mais ça nous a permis d'enclencher pas mal de sujets internes, de redévelopper en fait toute la plateforme avec tous les retours qu'ont pu nous faire les premières collectivités, la dizaine de collectivités qui l'ont utilisé depuis qu'on a lancé la solution. On a eu beaucoup de retours, beaucoup d'améliorations, on était un peu la tête dans le guidon. Donc là, quelque part, ça nous a donné un peu la bouffée d'air pour pouvoir se concentrer sur vraiment notre solution, la plateforme. On a lancé beaucoup de choses. On a aussi lancé justement un appel à initiative qu'on appelait hashtag balance ton initiative pendant le premier confinement pour sourcer un maximum de projets de réemploi à travers la France pour ensuite les mettre dans une plateforme qu'on est en train de lancer qui est une marketplace du réemploi dans laquelle c'est à la fois un outil de veille pour les collectivités pour regarder ce qui existe et où en termes de solutions de réemploi, ce qui a été déployé, ce qui est utilisé par telle ou telle ville avec lesquelles on travaille. Ce catalogue de veille permet aussi d'ajouter directement et facilement dans son chatbot des solutions de réemploi, que ce soit des solutions super locales, une ressourcerie comme des solutions nationales comme Vinted ou Le Bon Coin. On n'y pense pas forcément, mais ça reste des solutions finalement de réemploi et de bonnes pratiques qui sont toujours plus intéressantes à recommander que la déchetterie. Du coup, voilà, on a enclenché tous ces sujets-là et ça a super bien marché. On a eu plus de 100 candidatures sur cet appel à projet. On ne s'attendait vraiment pas à toucher autant de monde, surtout dans toute la France, des territoires où on ne connaît absolument personne, en Bretagne, vers Marseille, au nord, au sud, enfin vraiment partout. Ça montre que les gens sont prêts à y aller, à s'investir, à faire bouger les choses, qu'ils veulent être mis en avant. Donc, plein de belles choses. On espère qu'en 2021, on pourra dérouler le plan sans encombre.
On vous le souhaite. En fait, on pourrait vous écouter pendant des heures parce que vous êtes en plein dans notre sujet, puisque ça touche le digital, donc qui manque cruellement à nos petites entreprises et qui où la France est un petit peu à la traîne. Bah, le lien social, parce qu'il y a vraiment quelque chose de solidaire, le réemploi, les déchets. On est vraiment dans ce concept de croissance bleue, d'économie bleue qui voudrait donc le bénéfice de chacun sans la destruction de l'environnement. Et là, si on est obligé de passer à l'invité suivant, mais Pour plus d'infos, donc nos auditeurs peuvent aller sur trizy.io. Merci Romain Bouillet d'avoir été avec nous. On espère vous recevoir en plateau très vite, dès que les conditions le permettent. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Alors Serge, vous avez parlé tout à l'heure donc de votre activité liée au littoral. Et pour Hayat, pour ta gouverne, il faut savoir qu'une grande part donc de votre activité de consulting est tournée vers les entreprises maritimes aquacoles. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 720 km de littoral, 6,5% de l'économie maritime, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur le site de la région, et 49 000 emplois. En tout cas, c'est ce dont se targue de la région Nouvelle-Aquitaine qui affiche une vraie volonté de soutenir la croissance durable des filières liées à la mer. Et vous avez, je ne sais pas si vous l'avez accompagné, donc Marielle Philippe, pardon, qui est la dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Fémère. Ça va te plaire, Hayat. Elle siège à Arcachon. Elle recycle les peaux de truites et autres saumons pour en faire des peaux marines, une maroquinerie éco-responsable et tendance. Et nous allons l'appeler, je ne sais pas si elle est encore en ligne. Oui, nous l'avons en ligne. Bonjour Marielle Philippe.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sur Rode Radio, l'écho des entreprises, 91.3 pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Votre entreprise, c'est les joies du télétravail, on entend l'enfant derrière, on a tous connu ça, donc c'est voilà. Avec plaisir. Dites-moi Marielle Philippe, Fémère, c'est fait avec la mer, dites-nous un petit peu plus.
Alors, Fémère, oui, c'est fait avec la mère et c'est aussi femme et mère, puisque c'est une entreprise plutôt féminine et il n'y en a quand même pas tant que ça. Et donc, Fémère, on valorise les coproduits de la pêche et de la pisciculture, donc les peaux de poisson, en cuir avec un tannage qui est 100% végétal et donc un procédé éco-responsable.
Donc concrètement, vous allez chercher les peaux des truites, des saumons que normalement les poissonniers rejettent à l'eau.
Voilà.
Et donc, vous les récupérez. C'est quoi ce tannage végétal? Racontez-nous comment vous faites, parce qu'on a une styliste avec nous dans le studio, Hayat Tieno, qui écoute de tout oui. Donc, je te passe la main, Hayat, voilà,
pour poser des questions techniques. J'adore les innovations comme ça. Donc, voilà. Bonsoir, Marielle.
Bonsoir.
Du coup, ça m'intéresse beaucoup, puisque, comme on le sait tous, le poisson, ça sent. Ça, j'invente rien. Comment faites-vous, justement, pour pouvoir tanner la peau et que ça devienne surtout une peau végétale et pour en faire des sacs, si j'ai bien compris, c'est ça?
Voilà, on peut faire, en fait, tout ce qu'on ferait avec un cuir classique. Donc, les cuirs, à la fin, ne sentent plus le poisson, puisqu'en fait, tout au long du procédé, on va le rendre imputrescible. Et donc, en le transformant en cuir, un cuir de vache ne sent pas la vache dans le champ.
Non.
Donc, le procédé va faire que, finalement, à la fin, on aura une odeur de cuir, puisque tous les cuirs, finalement, sentent à peu près la même chose, et plus une odeur de poisson. Et donc, comment on fait? C'est une succession de bains. Donc le tannage végétal, c'est à partir de broyats d'écorce d'arbres. Alors on peut le faire avec du châtaignier, du quebracho. Nous, on a choisi d'utiliser du mimosa parce que c'est une plante invasive locale. Et du coup, cette succession de bains, donc, qui dure quand même entre 7 et 10 jours, va transformer les peaux de poisson cru en cuir.
Donc vous faites appel à des professionnels, si je comprends bien. Vous avez un atelier ou c'est vous qui le faites vous-même?
Alors c'est moi qui fais le tannage. On travaille également avec un ESAT, qui est un établissement d'insertion par le travail pour personnes handicapées, qui est situé dans la commune voisine. Pour certaines parties, donc notamment le nettoyage des peaux avant tannage et l'assouplissement des peaux après tannage, toute la partie tannage, comme il y a vraiment un procédé de fabrication un petit peu confidentiel, c'est moi qui le fais. Et ensuite, eux, ils font, on va dire, tout ce qui est plus chronophage et répétitif. Et après, le bain de tannage, je le fais moi. Mmh. Puis voilà. Et on a ensuite la coloration avec des pigments français sans sel métallique. Et donc, du coup, on propose à peu près 17 couleurs.
Justement, toutes ces couleurs, c'est vrai que c'est très tendance, il y a de la maroquinerie, des sacs élégants. Vous existez depuis combien de temps, Fémère?
Alors, Fémère a été créée en 2014, en fait, 2 ans auparavant, on était dans le garage en train de faire des essais de tannage, Et on a vraiment créé l'entreprise quand on a commencé à avoir un cuir qui tenait à peu près la route. Mmh. Et après, il a cessé d'évoluer. Et ça fait, donc en fait, après, pendant 3 ans, on a travaillé pour le faire évoluer et vraiment répondre aux standards de ce que voulait la maroquinerie et la chaussure. Et ensuite, depuis, le procédé est calé. Mmh. Et donc, on valorise, en fait, vraiment, on a des partenaires qui génèrent donc des déchets de coproduits et qui veulent les valoriser. Donc, on les valorise. Après, il faut savoir que chaque peau est différente et unique. Mmh. Et elles ont toutes des particularités. Mmh. Certaines vont être impeccables avec une écaille hyper bien dessinée. Et d'autres seront, on va dire, un petit peu plus écorchées ou un petit peu différentes en fonction de la vie qu'a eu le poisson.
D'accord. Mais du coup, la peau est plus fragile, non, qu'une peau, justement, animale?
Comment? Alors non, elle n'est pas plus fragile. Elle est exactement pareille. En fait, un cuir, à partir du moment où il est tanné, il a la même solidité.
D'accord.
Serge, oui.
Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'imaginer.
Je donnais la parole.
Non, je vois qu'il y a déjà des produits en train de dessiner.
Voilà.
Non, mais imaginez le produit.
Serge Gomez da Silva, une question pour vous, Marielle.
Non, mais déjà, oui, je voulais saluer Marielle, hein, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Alors, je confirme, ça ne sent pas du tout le poisson. J'ai offert un bracelet à mon épouse pour la Saint-Valentin l'année dernière. On est toujours ensemble. Donc, voilà, c'est un cadeau qui lui a beaucoup plu. Et une très jolie couleur d'ailleurs, et c'est ce que Marielle disait, enfin, elle travaille en partenariat avec un ESAT, donc avec une entreprise adaptée en local, et c'est comme ça que ce projet là en tout cas une manière dont il a été dont il a pu se développer, c'est avec un lien très fort avec les professionnels et puis les gens du voilà la communauté locale. Et on va toucher à tout. Et je suis sûr que même si on peut parler de chatbot et d'intelligence artificielle, si on développe ça en silo, en circuit fermé, sans un lien fort avec les entreprises du territoire, ça marchera pas. Dans cette optique de créer du lien, créer du sens à cette nouvelle économie, ça doit être fait comme ça.
C'est ce que disait Romain Bouillet tout à l'heure en disant, même si c'est pas dans l'air du temps, sans lien social, tout ce qu'on fait, en fait, n'aurait pas tellement de sens. Et donc, ce que finalement... Marielle, si vous êtes toujours avec nous, c'est vrai que les ESAT sont aussi très demandeurs de ces petites façons, puisque c'est aussi comme ça que ces centres peuvent fonctionner, donner à leurs usagers des possibilités de travail. Comment s'est passée la rencontre?
Alors en fait, je connaissais le directeur de l'ESAT depuis longtemps, parce qu'il était lui-même très impliqué dans l'économie bleue. Et donc, en fait, assez rapidement, une fois que j'avais calé un petit peu mes procédés et que je savais comment les faire travailler, parce qu'au début, il y avait quand même pas mal de choses à caler. À partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble, et ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement, en fait, au début du projet, parce qu'il y avait quand même pas mal d'étapes qui étaient chronophages. On pouvait pas du jour au lendemain monter une usine et embaucher 10 personnes, c'était pas possible. Les AT, en fait, étaient une solution pour pouvoir développer une production.
Vous travaillez ensemble sur la communication, c'est ça?
Non, pas vraiment. Marielle, on s'est rencontrés dans une de mes vies précédentes professionnelles où je travaillais encore à Bruxelles. On l'a pas dit, mais je suis belge, hein, comme Monsieur Gunther Pauli.
Comme votre nom l'indique.
Ouais, portugais un peu aussi. Aux deux radios, c'est le bon endroit pour ça.
C'est exactement.
Mais on s'est connus dans ce cadre-là. Et je voulais rebondir là-dessus. C'est ce que Marielle dit. On est dans des projets qui ont une quantité de petits liens faibles, de liens de proximité, que maintenant on valorise mieux. Et c'est ça, pour continuer dans la métaphore un peu scientifique, les liens faibles, c'est ce qui fait que le gecko tient au mur. Ce sont toutes les petites forces qui sont dans sa patte qui fait qu'il tient. Et c'est comment valoriser cette quantité de petits liens qu'il y a au niveau du territoire entre les entrepreneurs, entre les institutions, les collectivités, pour en faire un projet fort. Et le projet de Marielle, c'est exactement ça.
Ouais. Notre émission, il nous reste quelques minutes. Marielle, on est en pleine période de fête. Si on a envie d'acheter un sac FEMER, où est-ce qu'on peut aller? Votre site? Est-ce qu'on peut
Alors, sur notre comment site internet, sur donc FEMER.fr, donc il y a pas mal de sacs, notamment en précommande, hein, parce qu'on travaille, c'est pas moi qui réalise la maroquinerie, parce que c'est un autre métier, on travaille avec un atelier qui est dans les Landes, et qui est vraiment à taille humaine, hein, parce qu'elles sont trois dedans. Mmh. Donc il est en, voilà, pour Noël, ils n'auront pas sous le sapin le 25 décembre, puisqu'il faut un petit temps pour le fabriquer. Et ensuite, là, en ce moment, on réalise des bracelets assez abordables, faits en France. Et c'est vraiment en fait le cadeau qu'on a voulu développer solidaire avec un prix accessible à tous.
Mmh. Et c'est et à chaque fois une peau unique.
Voilà, chaque peau est unique et chaque bracelet du coup est unique et toute la maroquinerie du coup l'est également.
Donc votre site c'est Femer, F-E-M-E-R et non oui. Fait du verbe, femer.fr et vous êtes donc sur le bassin d'Arcachon.
Voilà, on est à la Teste de Buch, on a un atelier sur le port de la Teste.
À la Teste. Et vous travaillez, on l'a bien compris, avec vraiment du local, des gens dans les Landes et le maximum en Aquitaine, excusez-moi, en Nouvelle-Aquitaine finalement.
Tout est fait en Aquitaine en fait. Tout est fait en Nouvelle-Aquitaine. On a travaillé que sur le territoire en développant des partenariats avec des entreprises locales. Puisque bah, finalement, on a pas mal de savoir-faire sur le territoire et c'est vraiment dommage de ne pas l'exploiter.
Merci Marielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.
Au plaisir de vous recevoir également dans ce studio, Serge Gomez da Silva. Donc là, on vient d'avoir un exemple de ce qui pouvait se faire en termes de cette économie donc, liée aux déchets que pouvait produire la mer. Vous pouvez nous donner un autre exemple des personnes que vous accompagnez sur le littoral, puisque c'est quand même l'essentiel de votre activité. On a un peu de temps, on veut finir avec vous, on a commencé avec vous.
Il y a des exemples géniaux, enfin, on en parlait, là, que je trouve absolument fantastique et qui est aussi dans la région, sur le Pays Basque, c'est Skell, qui a trouvé une méthode pour valoriser les écailles de poisson. Alors, on reste dans la peau, un petit peu plus loin, pour en faire un produit qui remplace un matériau de type plastique avec des propriétés aussi de biodégradabilité et puis surtout l'absence d'utilisation de pétrochimie. On a des projets toujours en Nouvelle-Aquitaine sur la zone d'Oléron avec le comité régional conchylicole qui, eux, ont testé la fabrication de coupelles pour collecter le naissin. Donc le naissin, c'est vraiment ces larves, c'est les bébés huîtres qui doivent se fixer sur un support pour avant de commencer à grandir. C'est des coupelles, quand vous baladez à Arcachon, vous allez en voir, hein, parfois, qui traînent, malheureusement, qui ont été rejetées par la marée ou les tempêtes, qui sont en plastique. Et là, on est en train de trouver la manière d'en fabriquer de manière biosourcée. Donc pareil, avec des éléments qui, sur le long terme, se dégradent et retournent dans l'environnement sans impact. Pour rester dans la pêche, on a Filet Fab, un peu plus loin. Alors, ils sont en Bretagne, et pareil, ils ont aussi reçu un appui, une part d'appui financier par le programme européen du Fonds européen pour la pêche, comme Marielle aussi, et qui, eux, ont trouvé un process pour valoriser le nylon des filets de pêche pour en faire une nouvelle matière qui, maintenant, est utilisée pour faire des montures de lunettes de soleil, par exemple. Donc il y a une quantité... une fois qu'on pense, en fait, à... C'est vraiment une question de point de vue et de voir comment un produit existe au-delà de sa forme... d'utilisation classique. On est passé maintenant dans un moment où on fait plus attention à ce qu'il y a derrière le produit, ce qu'il compose et comment ça peut se reconstituer. Et c'est vers ça qu'on doit aller, peu importe l'entreprise. Ouais.
C'est vrai qu'on pensait à... C'est le docteur George Reynolds, je crois, qui avait inventé ce pacemaker en s'inspirant de la baleine. C'est ça l'idée, même si ça reste encore un rêve, il me semble, cette histoire-là. Mais l'idée, c'est... de revenir, quand on parle d'économie bleue, de regarder la nature, de voir comment elle fonctionne, de s'en inspirer, tout en gardant le mode de vie.
Vous avez peut-être remarqué, moi, le symbole de mon entreprise, c'est l'anguille. Oui. Eel, ça veut dire l'anguille en anglais. C'est un poisson que j'adore, pas à manger. sur son cycle de vie, il passe de l'océan aux rivières, il retourne à l'océan. On ne sait pas où, et puis finalement, il trouve un cycle. Voilà, c'est un cycle assez mystérieux et puis intéressant. C'est aussi en fait une solution bio-inspirée qui vient de Nouvelle-Aquitaine avec une entreprise qui a trouvé la manière de, d'imiter le mouvement de l'anguille pour en faire une pale qui génère de, de l'électricité, un peu comme une, voilà, une pale hydroélectrique. Donc même là, voilà, on trouve... c'est vraiment une manière de regarder l'environnement qui change, pas le regarder que sous un angle productiviste, mais un angle d'adaptation et puis un angle d'inspiration. C'est quelque chose qui est... vraiment prometteur.
Quelque chose qui revient et qui en même temps était dans la philosophie socratique.
Oui, oui, oui.
On... Il y a plus de choses dans le ciel et la terre. Je sais pas qu'on en rêve notre philosophie, on va être obligé.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Socrate et nous, mais au moins on y revient.
C'est vrai qu'il y avait cette, cette philosophie donc, de regarder l'univers. On est obligé de s'arrêter là. Ayat, une conclusion peut-être ? Tu as envie d'ajouter quelque chose ?
Ça fait quelques années que je commençais à prendre conscience un peu de tout ce que je fais, de par mon métier, puisque c'est le textile qui est très, très polluant, deuxième polluant mondial, on va dire. Je cherche des petites astuces, des petites choses justement pour changer tout ça avec peu de moyens, malheureusement, pour une petite entreprise. Et en fait, ce soir, j'en sors encore plus enrichi, on va dire, de tout ça. Je m'étais déjà informée avec Idrissa Berkane, avec pas mal de personnalités comme ça. Et en fait, c'est bon signe. C'est bon signe pour l'avenir. On va continuer comme ça. Et puis, on vira avec Fémère.
un dernier mot. Au-delà des grandes personnalités inspirantes, parfois un peu... parfois un peu gourou, j'ai tendance à dire. Voilà. Et c'est un peu la question, la chose qui me fait peur.
C'est pour ça qu'on vous a invité.
Voilà, au-delà de personnalités comme Idriss ou d'autres qui ont des messages très très forts, mais qui peuvent être un peu parfois trop forts et être très très inspirants, un peu trop, parfois, il faut aussi aller voir ce qui se passe à côté de chez
soi.
Et sur Bordeaux, il y a un endroit, on va terminer là-dessus, que j'adore, qui s'appelle l'atelier de Sous-Hélène. À Bègle, qui est un tiers-lieu dédié au textile. Et je pense que vous devriez aller faire un tour si vous ne le connaissez pas.
Mais,
vous le connaissez
mais malheureusement, ils vont fermer. Avec vraiment beaucoup, beaucoup de peine parce que c'était un peu précurseur dans la région à ce niveau-là. Donc, on leur souhaite tout le bonheur pour 2021.
Il faut prendre la relève.
Complètement. C'est l'objet, Serge, de notre émission. C'est en effet. Peut-être de partir de quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui est plus grand que nous. Mais nous, on croit à la capacité du local, on mise là-dessus. On pense qu'il y a énormément de richesses autour de chez nous. Et on croit aussi au travail collaboratif. Et on refera une émission sur l'économie bleue et on vous réinvitera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie. Votre société, c'est Illogic. Donc, 2-E-L-O-G-I-C, si on veut.
2-E-2-L.
2-E-2-L. OGIC, comme une anguille.
Eh oui.
Mais vous trouverez donc Serge Gomez da Silva, consultant en économie bleue. Marielle Philippe de la société Fémère, merci d'avoir été avec nous. Romain Bouillet de Trizy, d'avoir répondu à toutes nos questions avec clarté et passion. Merci à toi, Ayat. Toujours fidèle à mes côtés. Merci en tout cas de nous avoir donné l'envie d'agir ensemble. Je vous rappelle que cette émission sera diffusée ce mercredi à 9h et vendredi à 11h. Merci à toi Sandrine Brouard pour avoir assuré la régie pour nous. Et malgré les contraintes d'une année 2020, merci encore Ayat d'être restée
merci
quand même
à toi aussi.
À mes côtés. Merci à mes auditeurs et auditrices de nous rester fidèles sur Eau de Radio. Donc nous vous retrouverons à la rentrée puisque à partir du 4 janvier, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter sans prétention tout le bonheur du monde pour l'année à naître. Bonsoir à tous.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde.
chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.